Artiste associé du Centre d'art contemporain La Criée, Yann Serrandour présente un ensemble de tableaux qui l'inspirent. De Tenny-le-Jeune à Watteau, en passant par Vermeer et Rubens. Une rencontre à la confluence de l'histoire de l'art et de la création contemporaine. Inviter un artiste contemporain à évoquer ses influences, inspirations et univers artistiques, c'est l'idée de ce nouveau cycle de rencontres consacrées à l'art. Pour cette première, Yann Serrandour met l'accent sur la circulation de certains motifs à travers l'histoire de l'art, chien, clavecin ou damier, faisant aussi écho à ses recherches plastiques. En partenariat avec La Criée, Centre d'art contemporain de Rennes, dans le cadre de son cycle artistique « Alors que j'écoutais moi aussi », dédié aux formes du récit. On le retrouve dans cet échange quelques instants avant la préparation de cette rencontre, conférence qu'il a préparée et réalisée avec Sophie Kaplan, directrice de La Criée. Ce nouveau cycle se nomme « L'art toute une histoire », et une histoire, c'est ce que Yann Serrandour va tenter de nous raconter. Yann Serrandour conçoit sa pratique à la périphérie. À la périphérie, autour d'œuvres, d'expositions ou de catalogues qui ont été conçus par d'autres. Dans mes recherches, j'ai observé que son travail était souvent comparé à celui d'un historien. Mais que pense-t-il de cette comparaison ?
Un historien qui n'aurait pas beaucoup d'autorité. Moi, j'aime bien l'art toute une histoire, c'est ça le titre du cycle. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que l'art, c'est toute une histoire et je vais essayer d'en raconter une. Enfin, il y en a des milliers des histoires, mais voilà, l'idée c'est d'essayer de voir un peu comment chacun peut raconter cette histoire-là à sa manière. Ouais, je pense que c'est un peu usurpé comme terme, hein, quand même. Ouais. Parce que historien, à la différence d'un romancier, un historien a un certain souci de la vérité. Il faut s'appuyer sur des traces, sur des documents. Ça, je le partage assez finalement, mais j'ai quand même un souci de l'authenticité, de la vérité. Ça, c'est certain. Je fais pas du tout de fiction, par exemple. Je m'appuie toujours sur des traces ou des éléments comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand les choses partent un peu en vrille. Enfin.
En fait, pour continuer sur le partir en vrille, en fait. Donc il y a cette question d'authenticité qui est au cœur du travail de Yann, mais par contre, à la différence de l'historien, il ne s'intéresse pas à bâtir quelque chose qui aurait une explication académique, en fait. Donc l'une des choses que Yann recherche, ce serait plutôt de nous faire partir dans une exploration possible, à la fois à travers les pistes qu'il nous donne, mais aussi que nous nourrissons nous-mêmes de notre propre imaginaire. Donc il n'y a pas de, c'est pas balisé en fait. Enfin, il y a quelques petites balises, mais des balises pour des chemins multiples.
J'ajouterais qu'en fait là. Une des choses très importantes pour moi, c'est la question de l'erreur, de l'inattendu, du hasard, qui vont à un moment donné faire qu'une histoire va changer totalement de direction. Et donc je suis un peu à l'affût dans mon travail de recherche ou d'enquête documentaire sur ces petits éléments, ces détails qui à un moment donné vont retourner la compréhension qu'on peut avoir de quelque chose. Donc je suis plutôt à l'affût de ce genre de choses. Un bibliophile, c'est encore une autre histoire. C'est plutôt le goût qu'on peut avoir pour ces objets que sont les livres. En ça, peut-être que je suis un peu bibliophile, parce que j'ai un réel intérêt pour ces objets-là. Aussi pour leur transmission à travers le temps. Enfin, ce qui m'intéresse dans l'objet livre, en fait, c'est que ce sont des objets qui passent parfois de main en main, de lecteur en lecteur. Il y a toujours une certaine fascination aussi pour les livres qui portent des traces ou des inscriptions de lecture, parce qu'en fait ce sont des parcours ou des récits qui s'insinuent à l'intérieur d'un autre texte, et toutes ces manifestations en fait par les marges d'une appropriation en fait d'un texte central par son lecteur, c'est vraiment des choses qui m'intéressent.
De ce fait, est-ce dans les bibliothèques que les œuvres de Yann Serrandour prennent vie ?
Au départ, c'était un peu le lieu d'inscription de mon travail. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé confronté aussi à des espaces d'exposition qui ont un peu changé les règles du jeu. Mais je garde cet attachement pour le livre et les opérations de lecture d'une manière générale.
Mais alors, comment on se prépare à ce type de conférence, si préparation il y a ?
Ben là, Sophie rigole parce que oui, en fait, c'est complètement intuitif. Moi, je préfère voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai choisi de ramener un ensemble de livres parce que c'est une invitation qui vient de la bibliothèque des Champs Libres, que ça occupe une place importante dans mon travail. Et donc, les histoires qui m'intéressent, c'est la manière dont elles sont aussi racontées dans les livres, comment elles sont transmises par la reproduction, par le commentaire. Donc, j'ai rapporté un ensemble d'ouvrages qui sont importants, dans lesquels on pourra avoir des reproductions d'œuvres qui m'intéressent. Et puis, à partir de cet ensemble-là, ben, je vais essayer de raconter quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi encore.
Mais qu'est-ce que l'histoire de l'art ? À chacun sa vision.
Oui, l'histoire de l'art, c'est vraiment une manière de raconter des événements, des enchaînements, des anecdotes. Enfin, voilà, c'est pour moi l'histoire de l'art. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est avant tout une manière d'essayer de captiver aussi ses lecteurs dans l'enchaînement en fait des faits ou des événements peut-être les plus croustillants. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans l'histoire de l'art en fait aussi. Ben, je suis souvent intéressé par. Tout à l'heure, je parlais de l'erreur. Donc, tous ces éléments qui vont permettre de revoir ou de renverser la perception qu'on peut avoir de quelque chose qui s'est figé ou cristallisé. C'est-à-dire que si on regarde par exemple des chefs-d'œuvre dans l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui à un moment donné devient un peu une image ou un objet un peu intouchable, qui s'est figé dans son autorité. Et moi, tout l'intérêt que j'ai en fait pour la manière dont ces objets ont été retransmis, c'est plutôt quand ils sont soumis à des aléas pas maîtrisables ou des éléments qui vont en modifier la perception. Je suis toujours un peu à la recherche aussi d'espaces vides, de manque, en fait, dans cette histoire. En fait, c'est souvent par l'oubli, par le vide, par le manque, en fait, qu'une place est laissée aussi au lecteur, à l'usager. Et le travail d'un historien consiste à combler des manques. Hein, quand on fait un travail de... L'archive n'enregistre pas tout. Et l'art d'un historien, je crois, c'est d'essayer à partir de... des faits qui sont relatés dans l'archive, d'essayer de combler en fait tout ce qui manque par son récit, tout en essayant de rester le plus vrai possible. Mais donc je crois que la question du manque, elle est centrale en fait dans cette histoire, et moi elle m'intéresse beaucoup. C'est des espaces de jeu et de liberté, quoi.
Des références, Yann Serrandour en a, et elles sont multiples. Elles animent son œuvre. Dans sa dernière exposition à la Criée, on retrouvait au centre un clavecin, symbole de l'époque baroque. Mais pourquoi ce choix ?
Ce qui m'a assez fasciné dans l'histoire de cet instrument, c'est cette ellipse qu'il y a eu à la fin du XVIIIe siècle, tout au long du XIXe siècle, où il y a eu une perte à la fois de savoir-faire dans la construction de cet instrument, et aussi le fait qu'on n'en jouait plus du tout. Et donc, chaque fois que je vois dans une histoire quelque chose où il y a une sorte de manque ou de vide qui s'instaure, ça devient un espace de travail pour moi. Donc, ce qui m'a vraiment fasciné dans l'histoire de cet instrument, c'est qu'il a été totalement éclipsé pendant longtemps. Donc ça, je pense que c'est le... alors là, mon intérêt s'est porté sur cet instrument-là, mais ça aurait pu être un tout autre objet, en fait. Ça m'a amené aussi cet intérêt pour l'instrument, aussi à re-regarder des images aussi contemporaines de cet instrument, à savoir, dont on parlera peut-être ce soir, de peinture de Watteau, de Vermeer, etc., certains chefs-d'œuvre comme ça de l'histoire de l'art, où il y a une représentation aussi dans des scènes mondaines ou domestiques, du jeu du clavecin. Du coup, par mon intérêt pour l'instrument, j'ai été amené à re-regarder ces images différemment. J'ai découvert notamment que certains clavecins représentés dans les peintures de Vermeer, en fait, sont des clavecins réels qu'on retrouve aujourd'hui dans certains musées. C'est ce genre de choses qui m'a amené à revoir ces images que tout le monde connaît, mais par le biais de cet intérêt pour le clavecin, j'ai été amené à les regarder un peu différemment.
Quelques instants avant la rencontre, c'est le moment de la préparation. Quelles œuvres sont-elles les plus judicieuses à présenter et de quelle nature ?
On verra essentiellement l'ivresque, en tout cas. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont c'est retransmis souvent par le texte et par la reproduction et par le livre. Parce que c'est déjà une manière de prendre une certaine distance par rapport aux sources. Et je suis plus intéressé par la trajectoire qu'il y a entre, disons, l'espace qu'il y a entre un original qui a pu être exécuté à un moment donné et sa retransmission à travers le temps via toutes ces traductions successives. Donc j'ai plus d'intérêt pour le livre parce qu'il manifeste vraiment cet écart de temps et ce travail d'interprétation par rapport à quelque chose qui a été posé à un autre moment. Donc il y aura surtout des livres ce soir.
Yann Serrandour a développé un attrait pour les années 60-70, bien que ses références tendent à se développer.
Bah, j'ai eu un réel intérêt au début de mon travail pour toutes les pratiques conceptuelles. Avec le recul, je crois que ce qui m'a peut-être aussi beaucoup intéressé dans ces pratiques, c'est le fait qu'elles recouraient principalement en fait, à l'imprimé. C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à considérer que le conceptuel, c'est une histoire de langage. Mais on se rend compte avec le, peut-être avec l'écart de temps aussi qui s'instaure aujourd'hui avec ces pratiques-là, que cet intérêt pour le langage, il s'est manifesté beaucoup via l'impression de texte sur du papier. Et je pense que ça peut amener à reconsidérer aussi ce qu'on entend par art conceptuel dès lors qu'on le recoupe avec ces industries de l'imprimé par lesquelles cet art en fait s'est principalement transmis. Peut-être que mon travail consiste à parler du travail des autres. Oui, on peut dire ça peut-être, non ?